archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Les pluies diluviennes qui affectent une partie de la France et notamment la Bretagne m'ont donné l'idée de nous faire voyager cette semaine dans un pays où l'eau est abondante, le Bangladesh. Le Bangladesh n'est pas seulement un pays régulièrement soumis aux inondations une partie de l'année, c'est aussi une terre dont l'eau peut se révéler nocive pour la santé, car chargée d'arsenic. Cette contamination a été révélée dans les années 90, après la généralisation des puits tubulaires peu profonds construits pour éviter les maladies liées aux eaux de surface. Des dizaines de millions de personnes buvaient de l'eau contenant de l'arsenic naturel, dissous dans les sédiments du delta du Gange. L'eau, vitale pour la vie, peut donc se révéler mettre insidieusement la santé des humains en danger. Le reportage que nous allons écouter date de mars 2003, produit par le service magazine de Radio France Internationale. Écoutons-le ensemble et nous ferons un point tout à l'heure sur l'évolution de la situation au Bangladesh depuis cette époque. Je vous retrouve dans 20 minutes.
Fréquence Terre.
Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Pour évoquer cette année internationale de l'eau, je vous propose de partir sur un reportage de Zina Tansrod au pays des fleuves, le Bangladesh.
Nous sommes à Dhaka, la capitale du Bangladesh, où grouillent plus de 10 millions d'habitants, de rickshawala, ces taxis-bicyclettes, de chaiwala, ces marchands de thé à tous les coins de rue qui vous appellent pour venir goûter leur thé très parfumé et très fort, de marchands de dosa, ces petites galettes croustillantes qu'on mange avec des pommes de terre aux épices, d'enfants, de klaxons, de voitures, de couleurs et d'odeurs, de poussière. Pas mal. Dhaka est pollué. Et à Dhaka, on voit aussi les mères de famille laver leurs enfants dans les canaux. Le Bangladesh, c'est 144 000 km² pour 133 millions d'habitants, ce qui en fait quand même le pays le plus densément peuplé de la planète. Un tiers du Bangladesh est recouvert d'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle le pays des rivières. Il est traversé par trois immenses fleuves que sont le Gange, le Brahmaputra et le Meghna. Le Gange et le Brahmaputra prennent source, l'un dans l'Himalaya et l'autre dans le Tibet. Avec le Meghna, ils vont traverser ce pays pour former vers le sud l'immense delta, le deuxième au monde après celui de l'Amazone, pour ensuite se jeter dans la baie du Bengale, dans l'océan Indien. Ces fleuves et toutes leurs ramifications jouent un rôle essentiel dans la vie de ce pays, pour le transport, les cultures agricoles, mais causent en même temps bien des malheurs, notamment à cause de la pollution. Une partie de la capitale, la partie ouest notamment, est desservie par une série de terminus, de petits ports. Et là, nous sommes au terminus number one, le principal port de la capitale, avec son responsable, M. Bolton.
My name is Bolton.
Mon nom est Bolton.
Syndicate.
Je suis contrôleur.
Supervisor. My country is small. Man is
Mon pays est très petit et surpeuplé et la qualité de l'eau n'est pas bonne. Simple. Et là, dans ce port où je travaille, vous voyez, il y a beaucoup de bateaux, de petits, de gros bateaux et des grands bateaux qui voyagent vers les autres provinces du pays. Ils dégazent ici dans le port, comme vous pouvez le voir. De plus, toutes les maisons et les hôtels de Dhaka déversent leurs eaux usées dans le fleuve et puis les rejets industriels viennent encore ajouter à la pollution du fleuve. J'en suis profondément navré.
I'm Dukito. I'm sorry.
Yeah!
তোমায় তারেছি নন্না ভালো যদি কাজ করতে পারো নি সাক্ষী রাখবানা মন তোমার দেখেছে তুমি
Nous embarquons sur un bateau au sud de Dhaka et descendons le fleuve Meghna. Et là, Zaheg Amkan, un journaliste de l'environnement du Pakistan, s'émerveille de voir que le Bangladesh a conservé cette tradition d'utiliser les voies fluviales comme moyen de transport, alors qu'au Pakistan, dans son pays, cela ne l'est plus.
Les voies navigables jouaient un rôle crucial pour l'économie du sous-continent indien. Ces fleuves qui quadrillent le sous-continent étaient une voie de communication privilégiée, transportant à la fois les gens et les biens. Ils reliaient les gens, mais à cause des barrages et d'autres obstructions, la plupart de ces rivières ne sont plus utilisées comme moyen de transport. Mais regardez, l'Indus par exemple, au Pakistan, c'était l'autoroute fluviale la plus importante de cette région. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Nous avons, au Pakistan, perdu l'usage de ces voies fluviales comme moyen privilégié de transport. Et je suis ravi de voir que cette voie de communication est toujours maintenue au Bangladesh. Il serait plus judicieux d'utiliser ces voies fluviales qui existent déjà plutôt que de construire des routes, sachant que ces mêmes routes provoquent des obstructions sur ces cours d'eau. Il faudrait développer l'utilisation des voies fluviales.
Est-ce que c'est réaliste?
Bien sûr, il n'y a pas grand-chose à faire. Les rivières sont déjà là, il faudrait seulement apporter une infrastructure supplémentaire et il faudrait surtout s'assurer que ces rivières ne soient pas obstruées. Il faut apprendre à vivre avec la nature, utiliser les ressources naturelles de manière intelligente.
Alors comment expliquez-vous que rien n'ait été fait jusqu'à présent ?
Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais à un certain moment, la construction de routes a été une priorité, et cela peut-être parce que les routes, ce sont de grands projets drainant beaucoup d'argent. Alors, qui dit beaucoup d'argent sous-entend forcément de la corruption, de l'argent pour les politiciens, pour les ingénieurs. Et les ingénieurs trouvent, grâce à la construction de routes, du travail, alors que sur les voies fluviales, il y en aurait sans doute moins. Les villes les plus importantes du Bangladesh se trouvent sur les berges des rivières. Elles sont toujours proches d'un point d'eau. Du reste, toutes les villes les plus importantes du sous-continent sont construites en bordure du fleuve. Ce sont eux qui ont dessiné la topographie des villes. Les fleuves ne sont pas arrivés après les cités.
Vous proposez une activité plus importante sur les fleuves. Cela provoquerait plus de pollution.
Eh bien, de toutes les façons, le trafic routier provoque déjà de la pollution. Regardez le nombre de camions qui circulent sur les routes. Un bateau pourrait remplacer une douzaine de camions. Ce problème existe déjà et je ne crois pas qu'un trafic fluvial plus important augmenterait la pollution. Mais au contraire, je pense qu'il pourrait l'atténuer.
Une des grandes préoccupations de ce pays sont les inondations. Nous sommes là dans un pays tropical qui connaît la saison des moussons, la période des pluies, de juin à octobre. Et ces inondations peuvent être plus ou moins graves. Une grande partie de la population sont des agriculteurs, mais 80% des terres sont à moins de 2 mètres d'altitude. Et pour se protéger des intempéries, la population qui vit le long des rivières construit des habitations sur pilotis. Commentaire de Kamrul Chaudhary, un journaliste bengali, rencontré à bord de ce bateau.
On peut voir que les maisons sont construites au-dessus du niveau habituel du fleuve. Et vous pouvez même voir cette marque indiquant le niveau normal de l'eau pendant la saison de la mousson. Et quand il y a des cyclones ou des inondations, les gens doivent être déplacés, emmenant avec eux leurs biens.
Est-ce que ce pays qui est régulièrement inondé dispose d'un système d'alerte météo efficace pour prévenir la population?
Oui, ça existe. Le Bangladesh est souvent touché par ce genre de catastrophe. Tous les 3 ou 4 ans, nous subissons une inondation massive. C'est pourquoi le système d'alerte s'en est trouvé amélioré. Les gens écoutent régulièrement la radio pour s'informer d'un éventuel danger.
Bhupendra, qu'est-ce qui vous plaît dans ce bureau qui vend des tickets pour le ferry ?
Je trouve ça génial parce que c'est un bureau flottant qu'on peut déplacer d'un point à l'autre du fleuve. Et dans une région comme celle-ci, on ne peut pas se permettre d'avoir un bureau fixe. Je trouve que c'est une idée très astucieuse, quoi. Ça n'existe pas chez moi au Népal.
Le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres au monde, a une mortalité importante du fait de la mauvaise qualité de l'eau, rarement traitée. Dans les années 70, les organisations internationales, notamment la Banque mondiale, se sont préoccupées de cette question. Et pendant 30 ans, 4 millions de puits ont été créés. Mais à aucun moment, l'eau des puits n'a été analysée. Et il se trouve que le sous-sol du Bangladesh est naturellement riche en arsenic. Et on a aujourd'hui un empoisonnement massif de la population. Il faut 20 à 30 ans d'incubation avant que la maladie ne se manifeste. Et maintenant, on découvre de plus en plus de cas dans les campagnes. L'OMS estime que cette catastrophe va toucher au moins 73 millions de personnes. Navatakura, mon interprète, interroge des hommes en train de pomper l'eau d'un puits dans un petit village. Est-ce que les gens boivent cette eau qu'ils sont en train de pomper ?
Oui, ils s'en servent pour cuisiner et ils la boivent également. Le puits ici n'a toujours pas été testé, donc on ne sait pas si l'eau qu'il contient est contaminée ou non à l'arsenic. Mais d'une manière générale, dans cette région, on n'a pas recensé d'arsenic, donc ces gens pensent que ce puits n'est pas contaminé. Ce monsieur m'explique qu'ils ont un moyen de vérifier si l'eau est contaminée ou pas. Ils la laissent en fait dans un récipient à l'air libre pendant quelques heures. Et si elle ne prend pas une teinte rougeâtre, ils estiment que c'est une eau potable.
Rencontre avec des jeunes femmes du village, avec Navatakura et Zegam Khan.
Cette
jeune fille s'appelle Akhlima Akhtar. Elle a 17 ans et elle ne va plus à l'école. Elle pense que l'eau du puits creusé dans sa cour est contaminée par l'arsenic.
Okay. Donc ils ne boivent pas cette eau. Il y a un autre puits plus loin, près de la mosquée, qui selon elle n'est pas touché. C'est à 10 minutes de marche de chez elle, elle doit s'y rendre chaque jour. Mais parfois, cependant, elle utilise l'eau de la rivière qui coule près de chez elle. Ce sont généralement les femmes qui vont puiser l'eau. Depuis l'âge de 10 ans, Akhlima fait ce trajet plusieurs fois dans la journée pour les 12 membres de sa famille.
So around 2 times a day they have to carry water.
You see they look like a rather well-off family. They look like a rather well-off family.
On nous a dit que la famille d'Akhlima est relativement aisée.
Ils ont une maison construite en dur avec un toit en tôle ondulée. Là, il y a deux petites granges. Il y a même un numéro sur la porte.
And a number on their door, which indicates residency.
This is a water pump here, but you see, it's painted red.
Le puits de cette cour est marqué de rouge pour indiquer qu'il est contaminé à l'arsenic et ainsi déconseiller aux gens de l'utiliser. Ils sont donc obligés d'aller chercher l'eau potable ailleurs. Cette famille prétend ne pas utiliser cette eau, mais certaines familles ne suivent pas les recommandations à la lettre et continuent d'utiliser l'eau de puits même si elle est contaminée, tout simplement parce que c'est très contraignant de marcher des kilomètres pour aller trouver de l'eau salubre. Et les conséquences en sont catastrophiques.
L'affaire des puits à l'arsenic est une des catastrophes majeures de ces dernières décennies. Traditionnellement, les populations du Delta ne buvaient pas l'eau du sous-sol, car c'était, disaient-elles, l'eau du diable. Mais évidemment, cela n'a pas suffi à interpeller les experts internationaux et tous les organismes aujourd'hui responsables de cet empoisonnement. Conclusion de Zinat Ansrod.
Le Bangladesh, pays des rivières, 130 millions d'habitants, 144 000 km², un tiers du pays est sous l'eau pendant 6 mois de l'année. Pendant 30 ans, ce pays a reçu des sommes importantes d'aide au développement. Et qu'en est-il aujourd'hui? Rien, pas grand-chose. Le pays ne s'est guère développé, ni en termes économiques, ni en matière d'éducation, ni en infrastructure de santé. Il y a eu d'immenses sommes d'argent dépensées, et pourtant aujourd'hui, cette population meurt lentement de l'arsenic.
Fin de ce Fréquence Terre consacré au Bangladesh sur un reportage de Zinat Ansrod, réalisé cette semaine par Marie David, mixé par Pascal Creusard sur une proposition d'Arnaud Jouve. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage produit en mars 2003. Cette situation que l'Organisation mondiale de la santé qualifiait en l'an 2000 de plus grande intoxication de masse de l'histoire, a connu des progrès. 30 millions de personnes étaient exposées à l'arsenic il y a 20 ans. Il y en a toujours 20 millions aujourd'hui, principalement dans les zones rurales, soit un tiers de moins. Un résultat obtenu grâce à l'installation de puits plus profonds, grâce aussi à des campagnes d'information. Mais on est loin d'avoir éradiqué le problème. Certes, la situation est meilleure qu'au début de l'an 2000, mais des dizaines de millions de personnes restent exposées et le risque pourrait même augmenter avec le réchauffement climatique. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur notre site alternantefm.fr. Comme archive musicale, je vous propose un extrait du concert organisé par George Harrison en soutien aux réfugiés de la guerre qui se déroulait au Bangladesh en 1971. Concert donné au Madison Square Garden de New York. La chanson s'appelle Bangladesh et c'est son créateur, ex-Beatles, qui l'interprète, George Harrison. À la semaine prochaine. Bye.